Docteur Donald Fowler, contexte de l'Ancien Testament. Conférence 19, Assyrie impériale. Symbole copyright 2024 de Fowler et Ted Rill de Brent. C'est le docteur de Fowler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 19, Assyrie impériale. Même si nous avons un empire qui a duré 300 ans, nous essayons de concentrer nos commentaires sur la lumière sur le texte de l'Ancien Testament. Nous ne perdons donc pas de temps à faire une histoire ancienne qui nous mènerait tout au long des rois assyriens et des événements importants de chaque roi. Nous nous concentrons plutôt sur l'histoire assyrienne telle qu'elle s'interface avec la Bible hébraïque. Ce que nous voulons faire en revenant à ce concept avec lequel nous avons commencé, qui était l'Assyrie, c'est vous faire remarquer qu'il y a un sens dans lequel le roi, comme toutes les autres nations autour de vous, un avertissement que Dieu leur a donné par l'intermédiaire de Samuel, a pour exemple paradigmatique le roi Achabé. Achabé était un internationaliste, un matérialiste, un militariste, et Dieu sait qu'il n'a certainement pas copié la loi mosaïque. Ainsi, la seule chose dont Achabé avait besoin pour le qualifier de roi était qu'il était un frère, c'était un Israélite. Mais lui-même a été un échec, et je pense que la raison pour laquelle le texte met l'accent sur ces trois batailles dont je vous ai parlé dans la dernière cassette était pour souligner que la voix d'Achabé était si impressionnante que la famille d'Achabé était la famille la plus impressionnante que les Assyriens aient connue. Avaient dans tout l'Occident. Ils ont fait une énorme impression sur les Assyriens, mais le fait est que la politique d'Achabé était conforme aux voies de ce monde, et Dieu avait d'autres voies par lesquelles il voulait interagir avec eux. Ainsi, la mort d'Achabé donne l'impulsion pour expliquer au public, même si vous ne dites rien à ce sujet, que comme Achabé a choisi de mourir en guerrier en saignant à mort dans le char, en fait, son véritable chemin a été un échec. Et donc, je nous ai mentionné dans nos notes ici qu'il faudrait à Shalmaneser plusieurs campagnes, mais finalement, en 841, il a finalement percé le mur occidental. Ainsi, le mur occidental était constitué, d'abord, des Araméens, et ensuite, de cette coalition que nous avons vue se former. Et ainsi, il écrasa l'armée de Hazael, roi de Dama, devant le mont Liban, et ce mont Liban était probablement le mont Hermon, puis gravit le mont Balirazi, et l'a reçu un tribut des vaincus, et c'était probablement mont Carmel. C'est ici que Jéhu est venu rendre hommage, ce qui est mentionné ou représenté sur l'obélisque noir. Je mentionne cela pour la simple raison qu'il s'agit du roi Jéhu, et comme vous pouvez le voir, il s'incline devant Shalmaneser III, et vous pouvez voir Shalmaneser avec ses eunuques et remarquer à quel point dans l'opulence du royaume royal, il le protège du soleil. Vous pouvez voir la force militaire dans l'image musclée de ceci, puis vous pouvez voir Jéhu, le nez au sol, embrassant le sol devant Shalmaneser pour montrer sa soumission. C'est une image percutante pour cette simple raison. Achabé n'a jamais fléchi le genou devant les Assyriens. En fait, quand Achabé mourut, il mourut invaincu par les Assyriens. Jéhu, tu te souviens peut-être qui était responsable de l'extermination de la lignée d'Achabé, vous vous souvenez que c'est Jéhu qui a provoqué la mort de Jézabel. Là, Jéhu est né à terre sur le mont Carmel, et c'est sans aucun doute une image qui a eu un impact sur les Israélites avertis. Si je peux vous dire 2000 ou 3000 ans après les faits, si je peux vous dire que la politique de Jéhu n'a pas vraiment fonctionné, alors cela a l'avantage de prendre des milliers d'années pour se prouver que c'est vrai. Jéhu était un ardent yahvéiste, c'est-à-dire un disciple du Dieu d'Israël, et le voilà, le nez contre terre. Ainsi, pour ceux qui interprètent Dieu à travers les événements contemporains, il doit avoir l'impression que la voix d'Achabé a fonctionné et que celle de Jéhu n'a pas fonctionné. Il est très difficile pour nous de savoir ce que Dieu fait à la une du journal ou de l'observer du point de vue de votre chaise du matin pendant que vous regardez les informations du matin. Nous ne sommes que des humains et nous interprétons imparfaitement. Ainsi, après 841, le royaume du nord d'Israël est brisé, et Shalmaneser peut ainsi tourner son attention vers le nord, et ici il tourne son attention vers Urartu. Comme vous pouvez le voir, la zone en vert ici est le royaume d'Urartu, et comme vous pouvez le constater, elle se trouve juste à la frontière nord de l'Assyrie, c'est donc une zone sensible que les Assyriens veulent réduire et conquérir. Il tourna donc son attention vers le nord, vers Urartu, qui était bien sûr une puissance majeure. Urartu, à cette époque, aurait été l'adversaire le plus puissant qu'avaient les Assyriens, et ainsi vous pouvez le voir quand vous regardez les statistiques que je vous ai données là, quand en 828, après une seule campagne, il prétend avoir capturé 110 000 esclaves et 82 000 tués, ce sont des chiffres massifs qui nous rappellent à quel point l'Empire assyrien est arrivé au point qu'il s'agit d'une guerre comme le monde n'en avait jamais vu. Il prétend avoir capturé 185 000 moutons, mais il n'a pas réussi à vaincre complètement Urartu. En 828, il aurait semblé que le monde antique tout entier était prêt à s'effondrer, mais Shalmaneser est mort, tant pis pour avoir lu les premières pages des journaux. En 828, avant de mourir, Salmanatar venait de porter un coup terrible à Urartu, et les journaux diraient sans aucun doute, je peux juste entendre CNN ou Fox ou quelqu'un nous parler de l'horrible ascension de l'Assyrie, et il crierait, Chicken Little, le ciel nous tombe sur la tête, vous savez, la bourse s'effondre, et puis Shalmaneser meurt. Et quand Salmanatar mourra, il s'avérera alors qu'il y aura une grande révolte qui affaiblira considérablement l'Assyrie. Cette grande révolte de 827 à 823 paralysa l'Assyrie pendant une génération et demie. Ce n'est que lorsque Shamshadad V s'est assuré le trône que cela a changé. Assyrie apparemment affaiblie, cela a apparemment affaibli l'Assyrie, ce n'est qu'à l'époque de Tiglath-Pilsé III en 745 qu'il réussit à inverser le déclin. Donc, si vous regardez vos statistiques, de 823 à 745, 60 ans, l'Assyrie est endormie. Il est en sommeil, mène peu de campagnes et ne constitue en réalité une menace sérieuse pour personne. Encore une fois, si nous tirons notre théologie des événements contemporains, je pourrais simplement entendre des prédicateurs sur l'ancienne télévision des voisins environnants dire au monde que Dieu les a délivrés d'Assyrie. Je peux voir les livres, je peux voir les articles, je peux entendre les commentateurs. L'Assyrie a été frappée par le ou les dieux de votre pays d'origine. Et voilà à quoi cela ressemblait, mais ce n'était pas ainsi. Alors, imaginez, si vous voulez, imaginez avec moi comme ça, pendant 60 ans, il n'y a littéralement rien, et puis 745 ans arrive. 745, sorti de nulle part, fait naître un roi assyrien nommé Tiglath-Pilsé III. Il se trouve qu'il fut le plus grand guerrier militaire de toute la période assyrienne. Tiglath-Pilsé fait irruption sur les lieux comme une tornade qu'on n'entendait pas venir. Étage 20 ans plus tard, Tiglath-Pilsé a conquis la quasi-totalité de l'Occident. Ainsi, Shamshiadad a dû faire face à 29 villes rebelles qui soutenaient son frère, ce qui a donné lieu à une grande guerre civile pour le pouvoir. Les insurgés voulaient apparemment renforcer le pouvoir du roi aux dépens des nobles. Shalmaneser a refusé de soutenir son fils aîné qui était soutenu par les insurgés, et nous avons donc une guerre civile. Shamshiadad a gagné, mais les tensions internes n'ont pas été résolues, et ce n'est réellement que 60 ans plus tard qu'elles ont été résolues en la personne de Tiglath-Pilsé III. Une note chronologique très importante peut être faite pour ceux d'entre nous qui écoutent la cassette, et c'est la suivante. La période de dormance de 60 ans que j'ai décrite est la période de 60 ans qui couvre les ministères des prophètes Amos, Michée et peut-être Jonas. Leurs ministères d'écriture se sont produits précisément pendant cette faiblesse assyrienne et peuvent expliquer le refus de leur message par le royaume du Nord. Alors, prenons note de cela. Nous avons 60 ans de dormance au cours desquels des prophètes comme Amos arrivent et leur disent « Vous allez tous en captivité ». Eh bien, ce que l'auditeur moyen ne sait pas, c'est qu'à l'époque où Amos prêchait ce message, personne n'emmenait des gens entiers en captivité. Cela a été inventé par Tiglath-Pilsé III. Ainsi, le message d'Amos tombe naturellement dans l'oreille d'un sourd, mais lorsque des prophètes comme Amos et Michée sont venus prédire le jugement et donc se repentir, ces messages sont apparus en plein milieu de la dormance. J'entends les chairs dans mon royaume du Sud. Dieu a délivré son peuple. C'est une interprétation tragique de la situation actuelle. En réalité, Dieu accordait probablement à son peuple un délai de grâce pour se repentir, après quoi Dieu briserait le jugement sur le royaume du Nord. C'est également à cette période que nous avons une histoire de la stèle moabite et alors que Achabé approchait de sa mort, Meïcha, qui était le roi de Moab, Moabait directement. Peut-être devrais-je simplement l'appeler et vous le montrer, donc si nous regardons cette carte, voici la mer morte, bien sûr, et Moab est la zone qui se trouve juste ici. Entre la Galilée et la mer morte se trouve la région de Moab, et ainsi le roi Moab, qui avait été vassalisé, a profité de son temps de faiblesse politique pour se libérer de la domination du royaume du Nord. Lorsqu'il a réussi, il a fait composer cette stèle pour célébrer la victoire qu'il avait remportée en se libérant du pouvoir du roi israélite détesté. Même si Joram les vainquit au combat, il était impossible de les maîtriser, c'est pourquoi la pierre moabite commémore la rébellion réussie. Maintenant, la raison pour laquelle, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette image est utile devant vous, car si vous pouviez regarder attentivement le script, vous auriez une image de ce à quoi ressemblait la langue hébraïque, disons, au 8e siècle. avant JC. Cela ne ressemble pas à l'hébreu que vous connaissez peut-être lorsque vous voyez les Bibles hébraïques aujourd'hui. C'est beaucoup plus cursif, mais ceci est écrit en moabite, qui est une langue très proche de l'hébreu, et c'est la seule inscription moabite que nous ayons de quelque importance, alors remarquez l'écriture. C'est le genre d'écriture qui aurait constitué l'hébreu à l'époque du 8e siècle. Vous remarquerez peut-être également cette section ici qui semble sombre et quelque peu endommagée. Ce document a survécu à l'Antiquité jusqu'à il y a environ un siècle. Il y a un siècle, un missionnaire nommé Augustus Klein a trouvé cette tablette et a commencé à l'étudier. Bien sûr, elle n'a pas obtenu de diplôme en archéologie avancée, même si elle n'existait pas en 1868. Elle n'a pas nécessité de diplôme en archéologie avancée. L'archéologie pour savoir qu'il avait trouvé quelque chose de très important, et il a donc commencé à en faire des copies pour pouvoir le conserver et ensuite, bien sûr, le traduire, ainsi que le document qui est devant nous et qui a survécu pendant des milliers d'années n'a pas pu survivre au monde contemporain d'Augustus Klein lorsque les villageois de la région ont vu que ce missionnaire y prêtait tellement d'attention qu'ils ont supposé qu'il devait y avoir de l'or à l'intérieur, alors ils ont brisé la stèle moabite pour obtenir l'or et bien sûr, il n'y avait pas d'or, mais il fut ensuite remonté, et nous avons ainsi cette très importante stèle écrite en moabite célébrant la guerre victorieuse de libération de Mesa, roi de Moab, contre les rois israélites. La guerre était donc vicieuse. Lorsque vous lisez ceci, cela est très utile car cela vous donne une idée du genre de climat militaire horrible qui s'est produit en cette période de guerre. Donc, en tout cas, nous passerons après ces 60 années à la période de Tiglath-Pilsétra. Il n'était pas de sang royal et c'était un général. Les nuages sombres de destruction se sont formés si rapidement que personne ne semblait comprendre ce qui se passait. Ainsi, lorsque les nuages ont éclaté, une averse a inondé toute la partie occidentale de l'Empire assyrien. Son lien avec la dynastie précédente est obscur. Dans la Bible, Tiglath-Pilsé a plusieurs noms. Il s'appelle Paul, il s'appelle aussi Pilze, et dans une chronique 5.26, il s'appelle Pulan, Tiglath-Pilsé. Pilze est probablement une faute d'orthographe de son nom. Ainsi, ce plus grand de tous les rois a connu un succès militaire comme peu l'ont fait auparavant. Il entreprit d'abord de rétablir la domination assyrienne au sud de Babylone, puis, il attaqua l'adversaire au nord, qui était Urartu. Lorsqu'il eut couvert ses flancs sud puis nord, il décida de se diriger vers l'ouest. Essayez d'imaginer que cela fait 60 ans que les Assyriens sont apparus en Occident. Ils pensaient que tout cela était passé. Ils pensaient que l'Assyrie n'était qu'un cauchemar, qu'ils s'en étaient réveillés et que c'était fini. Mais non, ce n'était pas un cauchemar, et ça devait continuer. Il s'est donc déplacé vers l'ouest pour soumettre à nouveau les affluents occidentaux, longtemps indépendants. Son premier adversaire semble avoir été une coalition de néotites et d'araméens dirigée par Matilu d'Arpate. Voir les célèbres inscriptions séphaères ou la formule de malédiction dans le traité de Matilu présente une ressemblance remarquable avec Isaïe 34 et Sophonie 2. Ces puissances étaient apparemment vassales du roi Urartien Sardu III. Lorsque Sardu tenta d'arrêter Tiglath-Pilsé, ils se rencontrèrent au combat et Sardu réussit à peine à s'échapper avec sa vie. Ainsi, dans les années suivantes, tout le nord de la Syrie et la Phénicie sont placés sous son contrôle. En 743, en seulement 2 ans, Tiglath-Pilsé avait pénétré jusqu'en Israël où il reçut un tribut du roi israélite Menachem. Et cet hommage était très substantiel, 1000 talents d'argent. 1000 talents d'argent ne représentent pas une somme sans précédent, mais pour un pays aussi petit que le royaume du Nord, cela devait être très onéreux financièrement. Donc, selon toute vraisemblance, cela explique la raison pour laquelle Menachem était si impopulaire. Il a été assassiné après seulement 2 ans. C'était probablement le résultat de son impopularité en raison de sa volonté de se soumettre au royaume du Nord. Après tout, si vous vous mettez à leur place, j'entends les chers lire les premières pages des journaux dire des choses comme Menachem, Dieu nous a déjà délivrés de lui. Il l'a vaincu à Karkar, il l'a vaincu en 849 et 848, puis en 845 et 841. Faites confiance à Dieu maintenant et il nous sauvera. Au lieu de cela, ils l'ont simplement assassiné et Pekah qui l'a suivi a adopté une politique anti-assyrienne forte en créant une alliance avec Rezin, roi de Dama. Pointons donc notre carte ici contre les Araméens. On dirait que j'ai déjà vécu ça. Ainsi, les Araméens de Dama sont ici. Voici Dama, donc voici les Araméens. Et ainsi, Érem et Israël, tout comme ils l'avaient fait à l'époque d'Achabé, formèrent une alliance pour résister aux Assyriens. Alors Péka et Razan pensèrent forcer Achaz, roi de Juda, à se joindre à la révolte. Mais il fit appel à Tiglath-Lézer pour obtenir de l'aide, et Achaz le fit, une demande à laquelle on répondit trop rapidement. Donc, pour nous préparer le terrain, rappelons-nous que Achaz était roi de Juda. Isaïe l'avait prévenu, n'écoutez pas cette coalition. Mais Achaz est allé de l'avant et a fait appel, c'est comme inviter le pitbull violent de votre voisin à déjeuner. Vous finirez probablement par être le plat principal. Ainsi, en 734, Tiglath-Pilzer est venu vers l'ouest et s'est déplacé vers le sud le long de la côte pour couper une éventuelle aide égyptienne à la révolte. Puis, en 733, il entra en Israël, dévastant une grande partie de la Galilée, qui se trouve au nord, et déporta de nombreux Israélites. Enfin, il s'est opposé au pouvoir réel, qui était Dama. Après avoir dévasté une grande partie de la campagne, il s'empara de la ville de Dama, exécuta Razan comme roi et envoya une grande partie de la population en exil. De retour dans le royaume du Nord, Osée avait assassiné Pécan, de sorte qu'il fut accepté comme le nouveau roi d'Israël, mais bien sûr, un royaume du Nord beaucoup plus petit en taille. C'est comme si, en regardant cela se produire, j'avais l'impression de voir une bataille perdue d'avance pour quelqu'un qui meurt lentement d'un cancer dans un lit d'hôpital. La victime devient de plus en plus faible. Le royaume du Nord devient de plus en plus petit. Ainsi, en tout cas, Osée est le prochain roi, et au cours des années 731 à 729, Tiglath-Pilzer a vaincu un usurpateur araméen sur le trône de Babylone. À sa mort en 727, les frontières de son pays étaient bien plus grandes qu'elles ne l'étaient. Donc, si nous regardons les ajouts de Tiglath-Pilzer, ils sont en vert clair, mais ils sont en fait encore plus grands, je pense, que ce que cela montre. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le vert clair désigne la région d'Urartu. Tiglath-Pilzer, à toutes fins utiles, mit fin au grand royaume d'Urartu, au nord. Vous pouvez alors voir qu'il a conquis son chemin jusqu'au sud. Il a détruit Dama et, en fait, je pourrais ajouter, il a également mis le royaume du Nord sous contrôle, de sorte qu'en réalité, nous aurions besoin d'étendre la zone verte encore plus au sud que ce que suggère cette carte. Tiglath-Pilzer était donc l'un des plus grands, sinon le plus grand, de tous les rois assyriens. Le pauvre petit Israël du Nord n'a aucune chance contre un tel monolithe, mais si je peux entendre les chairs prêcher la parole dans le royaume du Nord à sa mort, ce serait Dieu travaillant pour les sauver. Eh bien, jetons un coup d'œil, si nous le pouvons, jetons un coup d'œil aux innovations de Tiglath-Pilzer, car Tiglath-Pilzer n'était pas seulement un grand roi, mais Tiglath-Pilzer était aussi un génie pour diriger un empire, et donc nous je vais jeter un œil à ses innovations, Jean et donc 6, administratives et militaires. Vous voyez, Tiglath-Pilzer était un génie militaire. Il a mené des batailles très productives. Il est mort sans jamais être vaincu. Il a sécurisé les frontières nord, sud et ouest de ses adversaires. C'était un grand roi, mais le problème avec les réalisations militaires est qu'elles ne sont valables que pour une courte période de temps. Ce que Tiglath-Pilzer avait conçu était le genre d'innovation qui garantirait que l'Empire assyrien allait durer encore longtemps. Alors laissez-moi vous inviter à découvrir ces innovations. Sa première innovation a été de multiplier les districts, ou nous les appellerons peut-être pour que vous puissiez comprendre les États. Essayez de considérer l'Assyrie comme un pays doté d'États individuels. Tout comme dans notre pays, certains États sont suffisamment puissants pour constituer des pays à eux seuls. Californie. La Californie est fauchée, mais au moins c'est un grand pays brisé. Eh bien, en Assyrie, dans ces États, il y avait des États puissants, et ils constituaient une menace pour le roi. Tiglath-Pilzer a donc fait quelque chose qui était vraiment, je pense, assez innovant, voire un coup de génie. Il multiplie le nombre d'États. En d'autres termes, il a réduit un pays comme la Californie en 4 ou 5 États plus petits, créant ainsi une situation dans laquelle le pouvoir du trône serait moins menacé. Deuxièmement, le véritable pouvoir de la guerre civile était le conflit entre la noblesse, appelons les gouverneurs des États. Il y avait un conflit entre les gouverneurs des États et le roi parce que ces nobles voulaient plus de pouvoir. Ils voulaient que le roi ait moins de pouvoir. C'est le but de la guerre civile. Ainsi, Tiglath-Pilzer a attaqué la base du pouvoir des nobles en créant, en fait, davantage de nobles. S'il y avait plus de nobles, ils auraient moins de pouvoir et constitueraient donc moins de menaces pour les Assyriens, ce qui serait une décision très brillante de sa part. Eh bien, une troisième innovation de Tiglath-Pilzer est le résultat de la taille de cet empire. Les gars, quand nous regardons la taille de cet empire, laissez-moi essayer de vous donner quelques points de comparaison. Si vous pouvez regarder ça, il y a environ 300 miles d'ici à ici. Donc, ce que cela signifie, c'est que d'ici à ici, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à parcourir les contours des frontières de Tiglath-Pilzer, cela aurait été plusieurs milliers de kilomètres pour parcourir cela. Donc, ce que cela signifiait, c'est qu'en pratique, il aurait fallu des semaines, littéralement des semaines, pour que des informations sur quelque chose qui s'était produit soient entendues. Si quelqu'un se révoltait quelque part dans les vastes frontières de ce royaume, le roi n'en serait pas informé avant au plus tôt quelques semaines. Ce qu'il a fait était donc d'une importance monumentale, même si peu de gens en ont entendu parler. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé l'équivalent de ce que nous appelons dans ce pays le Pony Express. Autrement dit, dans tout le royaume, il établit des centres administratifs où se trouvait une écurie de chevaux tenue par des serviteurs du roi, et ainsi, lorsqu'il fallait transmettre des nouvelles, il pouvait envoyer un cheval rapide d'une écurie à l'autre. Et aussi vite qu'il était humainement possible à cette époque, il pouvait alors entendre ce qui se passait dans tout le royaume. Cela était extrêmement efficace car cela signifiait que les personnes qui tentaient de se rebeller contre les Assyriens n'avaient que quelques jours pour y parvenir avant que la nouvelle ne parvienne dans des villes comme Ninive. C'était donc une décision brillante de sa part. Maintenant, je dis son point de vue, nous ne savons pas qui a pensé à cela, si c'était Sardu qui a essayé d'arrêter Tiglath-Pilzer ou un conseiller avisé, mais si Sardu a essayé d'arrêter Tiglath-Pilzer n'a pas inventé le concept, il était logique de voir que le concept était nécessaire. Il a donc créé un système Pony Express. Sa dernière réforme administrative consiste à annexer les territoires conquis directement à l'Empire Assyrien. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur ce que signifiait être annexé, sous ces réformes, j'ai une liste de situations expliquant ce que signifiait être annexé. Cela signifie que le pouvoir conquis a perdu son indépendance. On a autorisé une sorte de gouvernement qui était un gouvernement fantoche. En réalité, à la lecture des situations, ils étaient devenus des territoires conquis et en garnison et avaient réellement perdu leur liberté indépendante. Il a donc utilisé toutes ces choses pour décrire ce que signifiait être annexé. Et donc, cela signifiait que ce qui était un état indépendant est devenu fondamentalement un état en garnison par des troupes ennemies, dirigées par des personnalités politiques ennemies, avec juste un gouvernement fantoche. Cela garantissait également qu'il serait très difficile de se rebeller contre l'état assyrien. En remontant plus haut, on voit que j'ai mis de côté deux innovations militaires. Ces mesures sont plus éclatantes que les mesures administratives. Je ne sais vraiment pas s'ils sont plus ou moins importants. Ce que Tiglath-Pilzer a fait, c'est d'innover dans un concept de déportation. Les Assyriens, depuis un siècle, plus d'un siècle, étaient en proie à des rébellions constantes. Et Tiglath-Pilzer connaissait l'histoire des empires. Il a eu de nombreux érudits qui l'ont éduqué et lui ont expliqué comment cela avait fonctionné tout au long de l'histoire. Et ce qu'il avait vu, c'est que pour tous les empires dont on pouvait parler historiquement, ce qu'il avait vu, c'est que l'empire signifiait une révolte après l'autre, littéralement pour toute l'histoire de l'empire. Eh bien, Tiglath-Pilzer a apparemment été informé par ses conseillers que la véritable raison des révoltes était due au lien des gens avec leur patrie. Après tout, théologiquement, ils pensaient que leur patrie était l'endroit où vivait leur dieu. Et c'est certainement là que vivait leur famille. Tiglath-Pilzer s'est donc fait dire par quelqu'un, ou bien il l'a vu lui-même, qu'un bon moyen de résoudre le problème des révoltes incessantes est simplement de déporter des populations entières. Lorsque la fumée s'est dissipée sous le règne de Tiglath-Pilzer, d'après ses chiffres, il avait déporté plus de 400 000 personnes de leur pays. Cela a eu un effet puissant sur la répression des rébellions, car cela rendait extrêmement difficile la révolte lorsque vous étiez dans un pays étranger sans votre réseau d'amis, d'alliances et de connaissances. C'était donc littéralement un coup de génie. En déportant des populations entières, il pourrait rendre très difficile la révolte des personnes capturées. 400 000. Ce que nous savons, c'est que Sennachérib, un roi à venir, déporterait plus de personnes que quiconque. Sennachérib a adopté cette politique. Il a expulsé un demi-million de personnes de leur pays. Busone Oda a écrit un livre dans lequel il garde un œil sur tous les chiffres. Ce qu'il a découvert, c'est qu'au cours de la période allant de Tiglath-Pilzer à la chute de l'Empire Assyrien, il y a environ 100 ans, les Assyriens ont déporté 4,5 millions de personnes. L'une des raisons pour lesquelles l'Empire assyrien a duré si longtemps, malgré la haine qu'il suscitait, était cette politique de déportation. Cela rendait littéralement impossible la révolte des peuples conquis. Cela nous amène à la dernière de ses réformes militaires et à la dernière de ses innovations. Autrement dit, pour revenir à notre carte, si nous regardons la carte, nous pourrions conclure que les Assyriens règnent sur peut-être plusieurs millions de personnes. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu une statistique sur le nombre de personnes qui auraient vécu dans l'Empire assyrien, mais peut-être plusieurs millions. Eh bien, l'Assyrie elle-même est une région relativement, et je dis relative, relativement petite. C'est beaucoup plus grand qu'Israël, mais c'est une zone relativement petite. Donc, pour le dire ainsi, il n'y a tout simplement pas assez d'Assyriens pour pouvoir constituer l'armée nécessaire pour gouverner cette monstrueuse superficie de territoire. Ainsi, ce qu'il a appris est quelque chose que tous les empires ultérieurs devraient copier. Lorsque vous dirigez des gens qui sont largement plus nombreux que votre royaume, vous devez constituer votre armée, vous devez construire votre armée et la composer de peuples conquis de votre empire. Donc, ce que Tiglath-Pilsé a fait et qui était un tel coup de génie, c'est que l'Empire assyrien d'aujourd'hui, l'armée de l'Empire assyrien d'aujourd'hui, aurait été composée en grande partie de soldats conquis provenant des territoires conquis. Presque certainement dirigés par des Assyriens, mais le soldat assyrien ordinaire n'aurait plus été un Assyrien. Et souvent, à ce stade du cours, un élève me demande, comment cela a-t-il fonctionné? Parce qu'on pourrait penser que ce serait dangereux. On pourrait penser qu'il y aurait une rébellion. Mais en fait, où en était-il? S'il doit y avoir une révolte de ces troupes étrangères, où iront-elles? Ils n'ont pas de patrie où aller. Ils n'ont aucun moyen de réussir un coup d'État. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment une menace tant qu'ils n'étaient pas dirigés par des étrangers. Et nous savons par l'histoire que les Romains ont conquis leur empire avec des soldats espagnols. C'est bien sûr exagéré, mais cela vise à vous montrer qu'en réalité, vous pouvez forcer des soldats d'autres territoires à combattre au nom de l'État. Cela a commencé avec Tiglath-Pilsé III. Cela s'est poursuivi tout au long du siècle suivant et cela a fonctionné. Vous savez, vous pouvez oublier parce que normalement vous ne lisez pas attentivement la Bible, mais David lui-même, le grand roi d'Israël, David lui-même avait des troupes étrangères dans son armée. Sa garde du corps personnel était composée de charitites, qui est un autre terme désignant les Égéens. David avait sa propre garde du corps militaire, c'est-à-dire ce groupe de soldats qui gardait la partie la plus sensible de l'empire de David, son palais était composé de soldats étrangers, des Égéens. David avait des mercenaires dans son armée. Tu te souviens du riz le Hittite? Ainsi, ce que Tiglath-Pilsé envisageait, cependant, c'était de faire en sorte que l'armée permanente soit composée pour l'essentiel de troupes non assyriennes. Vous savez, mes amis, c'était devenu quelque chose d'essentiel parce que le genre de perte que subissaient les Assyriens depuis un siècle aurait paralysé leur sociologie. D'accord. Ainsi, depuis l'époque d'Adad-Nirari jusqu'à l'époque de Tiglath-Pilsé s'est écoulée une période de près de 2 siècles. Aujourd'hui, pas tout à fait, mais presque 2 siècles, c'est une époque de guerre sans fin. Ainsi, depuis 2 siècles, les Assyriens subissent des pertes. Et cela est débilitant pour une culture. Chacun de ces soldats assyriens tués aurait laissé derrière lui une veuve et probablement des enfants. Comment ont-ils été soignés? Qu'est-ce que cela signifie pour le tissu social de l'Assyrie? Ce que nous postulons ou devinons en l'absence de toute information spécifique, c'est que 2 siècles de pertes ont été durs pour la sociologie de l'ancien peuple assyrien. Ainsi, ils peuvent désormais transférer le phénomène des pertes aux soldats qui composaient leurs armées, mais ce ne sont pas des Assyriens. Cela explique en grande partie pourquoi ils ont si bien réussi à perpétuer leur armée ou leur empire pendant toutes ces années. Eh bien, lorsque la fumée s'est retombée, Tiglath-Pilsé était un général d'une importance monumentale, mais ce sont probablement ses innovations qui ont été la meilleure contribution qu'il a apportée à tous les rois ultérieurs. Ainsi, alors que nous approchons de la fin du royaume du Nord, nous voyons que Shalmaneser devient le prochain roi. Le roi égyptien aussi, et il conspire pour créer une rébellion en Palestine. Le grand prophète Isaïe a mis en garde Ézéchia contre de telles alliances, mais Osée, roi du royaume du Nord, n'était pas aussi sage. C'est peut-être parce qu'Osée était simplement plus désespéré. Osée se rebellait, en 725, Salmanassar assiégea Tyr et Samarie. En septembre 722, Samarie tomba et 28 000 personnes furent déportées de la ville. Le roi suivant, Sargon, prétendit plus tard avoir pris la ville lui-même, mais selon le texte biblique ainsi qu'une chronique babylonienne, la ville fut en fait capturée par Salmanatar. N'est-ce pas tout simplement incroyable? Voici la fin du royaume du Nord, la perte des terres des 10 tribus, et il n'y avait qu'une si petite pierre tombale. 722, c'est fini. Les 10 tribus disparaissent à jamais. 10 tribus perdues n'ont jamais été retrouvées. Ils sont allés en captivité, et ils ont été engloutis, et juste comme ça, nous avons eu la fin du royaume du Nord. Sargon a suivi Salmanatar et Sargon s'est heurté à l'opposition d'au moins 3 domaines d'interférence majeurs. J'ai mentionné l'ingérence élamite, alors maintenant ce que nous essayons de vous faire remarquer, c'est que les Assyriens commencent à tenter d'en finir avec eux par des coalitions. Sous le règne de Sargon II, vous pouvez voir que son règne était que sa partie du pays s'étendait dans le vert foncé. Ainsi, comme vous pouvez le constater, sous le règne de Sargon II, l'Assyrie s'est encore agrandie. Voyez comment tout au long de l'arc, il l'étend. Ainsi, Sargon était un roi très performant militairement, et donc il réussit, et cela se produit en partie parce qu'il est opposé par Ilum ici, à l'interférence élamite. Ainsi, je vous ai mentionné dans mes notes sur la conquête d'Elam, à la bataille de Dur, qu'il a rencontré un Banigash d'Elam et Marduk Aplaidina, qui dans la Bible s'appelle Merodach Baladan. Les résultats de la bataille sont répertoriés par les 3 participants et, heureusement, personne n'a perdu. Mais ce n'était pas une victoire assyrienne, puisque Merodach Baladan resta sur son trône de Babylone pendant encore 11 ans. Ce n'est qu'en 708 qu'il reprit finalement Babylone. Ainsi, lorsque nous avons regardé la carte, les Élamites avaient interféré avec le règne des Assyriens, mais Sargon réussit à les vaincre et à reprendre le contrôle de l'enfant prodigue Babylone. Dans l'interférence ouest, après la bataille de Dur, Sargon fait face à une rébellion dirigée par Yabidi de Hama. Diverses autres cités-états se joignent à nous, notamment Dama, Samarie, Arpad, Atarika et Samarie. Les forces les plus puissantes étaient celles du roi de Gaza et du commandant de l'armée égyptienne. Sargon a remporté cette bataille, c'est pourquoi, lorsque nous regardons notre carte, nous voyons le pouvoir de Sargon s'étendre jusqu'au « il n'y a pas de ville ». Voyez-vous où c'est vert ici? Il n'y a aucune ville au sud autre que Gaza. Ainsi Sargon est capable de conquérir la plaine côtière jusqu'à Gaza. C'est donc une formidable victoire dans le sud. Cette série de victoires était si impressionnante que je vous l'ai mentionnée dans nos notes, elle semblait servir de prototype pour la liste des nations dans Achari 9, de 1 à 5. Ce n'est qu'en 712 que Sargon dut revenir à l'ouest pour réprimer une révolte, cette fois menée par Ashdo. L'interférence du Nord, bien entendu, était celle d'Urartu. De 719 à 18, il fut contraint de tourner son attention vers Urartu. N'ayant que partiellement réussi, il revint en 714 et captura sa ville la plus sacrée, Mutbissir, et emporta le dieu national, Aldia. Il continue à se heurter à Mita, roi de Mashki, qui semble être mentionné dans Ézéchiel entre 38 et 39. Ainsi, en réalité, quand on regarde la carte, Sargon donne à chacun une pilule amère du divorce, pas le divorce, une pilule amère du divorce. Pilule de dépression, car partout dans les périphéries de tout ce royaume, il ne cesse de s'étendre. Si vous voulez comprendre la dynamique de ces empires, cela fonctionne à peu près comme ceci. Tout le monde dans le public a vu un ballon gonflé. Vous savez, vous pouvez le faire exploser, et il peut devenir plus gros, et il peut devenir plus gros, mais chaque ballon a ses limites, et quand il explose, c'est tout. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'Empire assyrien. À l'heure actuelle, cela semble inexorablement imparable, et cela ne cesse de prendre de l'ampleur. Heureusement pour le reste du monde antique, le moment n'est pas beaucoup plus lointain où il s'effondrera. Ainsi, Sargon est un roi très prospère, et il a donc déplacé sa capitale de la ville d'Ashur, une capitale historique, à Kalak, la déplace à nouveau à Ninive, la déplace à Deyur-Charukin, d'où de nombreux exemples d'art et d'art assyrien. Des constructions ont été trouvées. Il avait à peine occupé son nouveau palais qu'il mourut en combattant en 705 contre Tabal, Tabal mentionné dans Ézéchiel entre 38 et 39. Juste pour faire le point sur Ézéchiel entre 38 et 39, dans la liste de toutes les nations qui s'y trouvent, jusqu'à la dernière place sur la carte est connue, jusqu'au dernier endroit, à l'exception de Gag et Mégag. Gag et Magag, la dernière fois que j'ai compté, il y a 13 ou peut-être 17 suppositions différentes sur qui sont Gag et Magag, mais toutes les autres nations répertoriées dans Ézéchiel entre 38 et 39 étaient connues sur la carte du monde d'Ézéchiel. Ainsi, le règne de Sargon prend fin, et il est suivi par Sennachérib. Sennachérib est un nom dont vous vous souviendrez peut-être d'après ce que je vous ai dit dans le passé. Le Sen de Sennachérib est le dieu lunaire Sen, et le Chérib, vous le reconnaîtrez peut-être, est un Chérib. Donc, ce que son nom signifie, c'est que le dieu de la lune Sen est un Chérib ou une figure religieuse et mythique. Sous le règne de Sennachérib, il semblait y avoir un nouvel accent avec moins de campagnes. Il ne mène que 8 campagnes en 24 ans. Ce n'est pas ainsi que fonctionnaient les rois assyriens. Il en construisit également beaucoup plus, notamment à Ninive. Il s'est d'abord déplacé vers le sud et a retiré Merodach-Baladan du trône de Babylone. Il se dirigea ensuite vers l'est contre les Cassites et les Aigres et prétendit avoir reçu un tribut des Mèdes. C'est la première fois que nous les mentionnons ce semestre. Il s'agit cependant de son troisième mouvement, qui revêt la plus grande importance biblique. Et je pense que ce sera un bon moment pour nous arrêter car il me faut trop de temps pour décrire l'invasion du royaume du sud par Sargon pour le terminer sur cette bande. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire une pause ici, puis revenir à l'un des événements les plus intéressants de tout l'Ancien Testament. Sargon envahit Jérusalem sous le règne d'Ézéchia. Et nous en parlerons en essayant d'expliquer cette campagne confuse de Sargon. C'est donc dans cet esprit que nous ferons une pause, puis nous reviendrons. C'est le docteur Dofauler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 19, Assyrie impériale.